Vous écoutez, on lit pour vous.
Le cerveau suivi jour et nuit en direct. Un texte de Marie-Ève Cousineau, paru le 12 octobre 2025 dans la presse. Depuis plus de 24 heures, Gabrielle Moreau-Morneau ne dort pas. Elle lutte contre le sommeil. J'ai fait 100 pages de mots, entrecroisés. J'ai regardé les 4 saisons de 10 épisodes d'une série, rien n'y fait. Aucune crise d'épilepsie ne se déclenche. C'est pourtant son but ultime, provoquer des crises grâce à la privation de sommeil, un excellent déclencheur dans l'espoir de mieux comprendre ce qui se passe dans son cerveau lorsque cela survient. Épileptique depuis l'âge de 6 semaines, Gabrielle Moreau-Morneau participe à un programme de l'Institut Hôpital Neurologique de Montréal, le Neuro, notamment destiné aux patients dits pharmacorésistants qui ne répondent pas à au moins 2 médicaments antiépileptiques. Pendant au moins une semaine, la jeune femme de 25 ans doit demeurer dans un lit de l'unité d'épilepsie, des électrodes posées sur le cuir chevelu et branchées à un électroencéphalogramme. L'équipe du neuro suit son activité cérébrale 24 heures sur 24. Lorsqu'une crise se produit, un neurologue spécialisé en épilepsie analyse la boîte noire de son cerveau. Il surveille les décharges électriques anormales et la zone du cerveau touchée. L'objectif ? Adapter son traitement pour réduire les épisodes épileptiques. Mais avant d'en arriver là, encore faut-il qu'une première crise survienne. C'est ce qu'attend patiemment Gabrielle Moreau-Morneau, assise dans son lit avec une tablette lors de la visite de la presse à la fin août. Elle achève alors le sevrage de ses 3 médicaments antiépileptiques et tente de rester éveillée pour précipiter une crise. Une expérience angoissante par moments selon la patiente, aussi atteinte d'un trouble d'anxiété généralisée. Tu ne sais jamais si ça va partir en dérape, ou si tu vas faire plusieurs épisodes rapprochés, ou si tu vas avoir le contrôle, confie-t-elle, les yeux pères, boursouflés par la fatigue. Mais l'équipe soignante est là si tu en as besoin, c'est toujours rassurant. Grâce à une caméra installée dans sa chambre, le personnel de l'unité l'observe en continu. De son lit, elle peut appuyer sur un dispositif pour signaler une crise à une infirmière. Mais Gabrielle Moreau-Morneau ne ressent habituellement pas ces crises. Ces épisodes épileptiques se manifestent par des absences de quelques secondes à une minute, ainsi que par des spasmes dans un membre qu'elle peine alors à bouger. Bébé, elle faisait des sursauts et ouvrait les bras involontairement. Souvent, les gens pensent encore qu'on avale notre langue quand on fait une crise ou qu'on fait juste le bacon, déplore-t-elle. Mais ce n'est tellement pas juste ça, l'épilepsie. Les absences, même brèves, peuvent être handicapantes. Lorsqu'elle était enfant, Gabrielle Moreau-Morneau en faisait jusqu'à une quarantaine par jour. Malgré une médication lourde, elle rapporte encore à sa neurologue 2 ou 3 crises par semaine. Si ça survient la nuit, ça peut couper ta nuit en deux, explique la patiente qui habite chez ses parents à Mascouche. Je suis fatiguée. Une centaine de patients en attente. Environ 100 patients sont inscrits sur une liste d'attente pour participer à ce programme du neuro. Entre avril 2024 et avril 2025, 162 patients de Montréal, d'autres régions et de l'extérieur du Québec y ont été admis. Tous sont en quête de réponse, rapporte l'infirmière gestionnaire Annick Plamondon. Et ils sont prêts à se priver de sommeil pour les obtenir. Ce plan-là est discuté avec eux, dit-elle. Donc, ils s'attendent à ce qu'on soit un petit peu tannant au cours de la nuit pour les réveiller. Certains trouvent l'expérience plus difficile, indique-t-elle. Les patients doivent rester branchés à l'électroencéphalogramme le plus longtemps possible afin d'enregistrer les crises. Impossible de quitter l'unité pendant de longues périodes pour se promener ou fumer dehors. Ils ont quand même le droit de sortir pour des pauses de 10-15 minutes toutes les 2 ou 3 heures pendant la journée et s'ils ont besoin de faire des marches, souligne l'infirmière Chenipkou. Grâce à ce séjour au neuro, les patients épileptiques découvrent qu'ils ne souffrent pas seulement de convulsions, mais aussi d'absence, selon Annick Plamondon. Ça permet une meilleure prise en charge, affirme-t-elle. Eureka, une crise. Gabrielle Moreau-Morneau a finalement passé 14 jours au neuro. Elle y a vécu une dizaine de crises, parfois très courtes, et en rafale dans son sommeil, selon sa neurologue, la docteure Raluca Pana. À la suite de son séjour, l'équipe du neuro a déterminé que 2 régions de son cerveau sont susceptibles de déclencher les crises, dont le lobe frontal droit. Afin de confirmer ces foyers épileptiques, la docteure Pana a récemment proposé à sa jeune patiente un autre séjour au neuro pour une procédure d'investigation plus poussée. L'implantation d'électrodes dans le cerveau qui permet d'obtenir une vue détaillée de l'activité électrique anormale lors des crises. Si l'équipe du neuro parvient à détecter des zones épileptogènes précises, une opération au cerveau pourrait être envisagée pour les retirer. Il y a des patients chez qui, malheureusement, même avec l'implantation des électrodes, on ne trouve pas d'où ça vient. Ou alors, ils ont un foyer très diffus dans le cerveau et on ne peut pas intervenir, dit la spécialiste en épilepsie. Gabriel Moreau-Morneau estime que son séjour en a valu la peine. « Quand j'étais jeune, on disait que j'avais peut-être plusieurs endroits dans mon cerveau où j'avais l'épilepsie, dit-elle. Finalement, on a confirmé que du côté gauche, tout est correct. » Une douzaine de médicaments. Ayant désormais une meilleure idée de l'ampleur de ses épisodes épileptiques, elle se dit ouverte à l'implantation d'électrodes et pourrait être intéressée par une opération. Gabrielle Moreau-Morneau veut améliorer sa qualité de vie. Elle a déjà essayé une douzaine de médicaments. « Je veux vraiment travailler comme tout le monde, dit-elle, puis faire ma place. » La jeune femme travaille dans une chaîne de restauration rapide où ses patrons comprennent bien sa réalité selon elle. Mais elle garde un souvenir amer de son congédiement d'un autre restaurant à la suite d'une absence épileptique. « J'étais restée debout, figée, puis j'étais juste complètement dans la lune », raconte-t-elle. La gérante lui a signifié que sa crise n'arrivait pas au bon moment. « Il y a vraiment de bons moments dans la vie pour être épileptique ? C'est tellement injuste. » Gabrielle Moreau-Morneau lance ce message aux employeurs. « Si une personne vous dit qu'elle est épileptique, écoutez-la et essayez d'arranger un plan de match avec elle. » 30%, c'est la proportion des personnes épileptiques dites « pharmacorésistantes », c'est-à-dire des gens réfractaires au traitement traditionnel. C'était « Le cerveau suivi jour et nuit en direct », un texte de Marie-Ève Cousineau, paru le 12 octobre 2025 dans la presse.
Aromathérapie, les huiles essentielles sous la loupe. Un texte d'Anne-Marie Tremblay, paru le 22 août 2025 dans Virage. Antioxydantes, antivirales, antiseptiques, raffermissantes. Les huiles essentielles auraient mille et une vertus, en plus d'améliorer le sommeil et la mémoire, et de réduire l'anxiété. Qu'en est-il réellement? Citation de l'aromathérapie, c'est l'utilisation thérapeutique de la fraction odorante d'une plante, extraite de différentes façons, qu'on appelle généralement huile essentielle. Résume Véronique Tanguay, naturopathe spécialisée en aromathérapie, auteure et formatrice. En fait, les plantes aromatiques produisent certaines molécules pour attirer les pollinisateurs, mais aussi pour se défendre contre leurs agresseurs, comme les champignons, les virus ou autres, ajoute Isabelle Louis XVI, aromathérapeute et naturopathe agréée. Ce sont ces bienfaits qu'on tente d'encapsuler et d'utiliser pour améliorer la santé humaine. Et cela se fait sous une forme ou une autre depuis la nuit des temps, poursuit-elle, qui est responsable des communications de l'Association des naturopathes agréés du Québec. Une science, vraiment? Face à ces nombreuses vertus alléguées, la prudence est de mise, fait valoir Jonathan Jarry, communicateur scientifique de l'Organisation pour la science et la société de l'Université McGill. Le problème, explique-t-il, c'est que les démonstrations des bienfaits des huiles essentielles pour la santé proviennent généralement d'études menées en laboratoire, ce qui n'est pas suffisant pour présumer de leur effet chez l'humain. Il est donc impossible d'utiliser ces données hyper préliminaires pour conclure qu'une huile essentielle pourrait guérir la grippe, donne-t-il en exemple. Citation, oui, on peut tuer des germes de plusieurs façons en laboratoire, mais cela ne signifie pas que ces résultats sont transposables à l'être humain, car l'huile essentielle doit être métabolisée correctement, être sans danger et capable de tuer le virus. Et, ajoute-t-il, lorsque des études cliniques sont menées, elles sont souvent de piètre qualité. Fin de citation. Néanmoins, certaines recherches sont en cours, notamment à la Fondation Armand Frappier, fait valoir Véronique Tanguay. De plus, arguent les deux aromathérapeutes, l'intérêt des entreprises pour la recherche demeure limité puisqu'elles ne peuvent pas breveter les molécules présentes dans les plantes. Jouer de prudence. Envie d'essayer l'aromathérapie? On applique le principe de précaution. Citation, ce n'est pas parce que ce sont des produits naturels qu'ils sont sans danger. Fin de citation, rappelle Jonathan Jarry. En effet, certaines huiles sont toxiques ou peuvent irriter la peau. Avant d'en tester une, mieux vaut se renseigner sur ses contre-indications et ses effets secondaires. Par exemple, toutes les huiles essentielles d'agrumes, telles que l'orange, le citron ou la bergamote, sont photosensibilisantes. Il faut donc éviter de s'exposer au soleil pendant plusieurs heures après en avoir appliqué sur sa peau. Pour en savoir plus, on consulte les instructions du fabricant ou on demande conseil à une ou un aromathérapeute. De plus, comme les huiles essentielles sont ultra concentrées, Il faut les diluer avant de les intégrer à une crème ou à une huile de massage, une proportion qui peut varier selon le produit. Citation, on teste aussi ce mélange sur la peau du poignet pour s'assurer qu'il n'entraîne pas de réaction cutanée ou allergique. Fin de citation, recommande Isabelle Louis XVI. Et on veille à se procurer une huile de qualité provenant d'une compagnie reconnue. Toutefois, pour Isabelle Louis XVI, c'est encore par leurs odeurs que les huiles essentielles se révèlent les plus efficaces. Citation, on peut en déposer une goutte dans ses mains et les frotter. Ensuite, on forme une coupe qu'on porte au nez et on inspire quelques fois. Si on a mal à la gorge, on peut même respirer par la bouche. Fin de citation. Encore une fois, on vérifie s'il faut la diluer ou si elle risque d'irriter les voies respiratoires. Ajoutez 4 ou 5 gouttes dans un diffuseur ou 7 ou 8 gouttes dans une tasse de sel d'Epsom à dissoudre dans le bain permet aussi de profiter de leurs arômes de manière plus indirecte, donc plus douce. Quelques huiles essentielles à tester. Même s'il ne s'agit pas d'un remède miracle, les huiles essentielles peuvent s'avérer utiles pour apaiser certains maux liés au vieillissement. Citation, beaucoup sont riches en antioxydants, notamment en polyphénols, comme les phénols, qui protègent l'organisme contre les radicaux libres, explique Véronique Tanguay. Elles peuvent aussi soulager les douleurs musculaires ou articulaires. Fin de citation. Nos deux expertes en recommandent quelques-unes à avoir dans sa trousse de soins naturels. La lavande. Si vous ne deviez en avoir qu'une seule à la maison, je vous conseillerais la lavande, affirme Isabelle Louis XVI. Cicatrisante et antiseptique, cette huile essentielle soulage les piqûres d'insectes, les coupures et les courbatures. On peut aussi en appliquer sur le ventre en cas d'inconfort digestif. Reconnue pour ses propriétés apaisantes, la lavande est aussi une alliée antiride, souligne Véronique Tanguay. Citation, cela s'explique par sa forte concentration en linalol, une molécule qui agit comme astringent cutané. Elle raffermit donc la peau. Fin de citation. Le citron. L'huile essentielle de citron, Isabelle Louis XVI l'utilise comme nettoyant, une façon de joindre l'utile à l'agréable. On profite de ses pouvoirs détachants et dégraissants tout en bénéficiant de son odeur ensoleillée. Parfait pour dynamiser ses journées. Le thé des bois. Citation. Le thé des bois est un anti-inflammatoire exceptionnel pour soulager les douleurs musculaires et articulaires. Cet effet est dû à sa molécule principale, le salicylate, S-A-L-I-C-Y-L-A-T-E, de méthyle, qu'on retrouve sous forme synthétique dans les antiphlogistiques, explique Véronique Tanguay. Elle recommande aussi cette huile aux personnes qui ont souvent les extrémités froides. Citation, on peut la diluer sans frictionner les pieds et enfiler des bas avant de se coucher. Cela activera la circulation. La menthe poivrée. Tout comme le thé des bois, la menthe poivrée procure une sensation de fraîcheur sur la peau, idéale pour soulager les douleurs musculaires et articulaires. Bien diluée, elle peut aussi être appliquée sur les tempes et la nuque en cas de maux de tête. Citation, bien souvent, cela suffit à les faire disparaître. Fin de citation, estime Isabelle Louis XVI. Sinon, on peut se tourner vers les médicaments. Le sapin baumier, grâce à ses propriétés décongestionnantes, l'huile essentielle de sapin baumier est très utile en cas d'infection pulmonaire, selon Véronique Tanguay. À diffuser pendant la saison froide, elle peut aussi être diluée et appliquée sur le thorax pour dégager les poumons. Citation, elle est également intéressante pour activer la circulation, notamment en cas de jambes lourdes, ajoute-t-elle, fin de citation. C'était Aromathérapie, les huiles essentielles sous la loupe. Un texte d'Anne-Marie Tremblay paru le 22 août 2025 dans Virage.
Bienvenue à la station Mary Two Acts Early. Un texte d'Isabelle Picard paru le 11 septembre 2025 dans la presse. La Société de transport de Montréal a dévoilé le nom des futures stations du prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal. Parmi ces noms, celui de Mary Two Axe Early, station qui sera située angle Jean Talon et Viau dans Saint-Léonard. Un nom sans doute inconnu pour plusieurs, pourtant si important dans l'histoire récente des Premières Nations du Canada. Née sur le territoire Mohawk de Kanawake en 1911, Mary Two Axe Early quitte, à l'âge de 18 ans, sa communauté et se déplace dans l'État de New York pour y chercher du travail. Elle s'installe alors à Brooklyn, où une communauté Mohawk, qu'on surnomme le Petit Caughnawaga, se trouve en plein essor autour des industries du fer et de l'acier. C'est là qu'elle va rencontrer et épouser Edward Early, un ingénieur électricien d'origine irlandaise. Au milieu des années 1960, Mary Two Axe Early prend pleinement conscience de ce que signifie le fait d'épouser un non-autochtone pour une femme issue des Premières Nations à cette époque. Une de ses amies meurt dans ses bras d'une crise cardiaque qui, selon Mary Two Axe Early, pourrait avoir été causée par le stress engendré par une loi discriminatoire à l'égard des Indiennes qui épousent des non-Indiens. En effet, l'alinéa 12.1b de la loi sur les Indiens précisait, avant 1985, que toute femme indienne qui épousait un non-Indien perdait automatiquement son statut d'Indienne. Il n'en était pas de même pour les hommes. Conséquemment, ces femmes ne pouvaient plus vivre au sein de leur communauté ni transmettre leur statut à leurs enfants et devaient élever leur famille ailleurs, au Québec ou au Canada, même si elles étaient veuves. C'est ce qui était arrivé à son amie, qui s'était fait refuser le droit de retourner dans la communauté qu'il avait vue grandir, malgré son veuvage. En 1966, Mary Two Axe Early commence à défendre les droits des femmes autochtones en lien avec cet article de loi discriminatoire. Elle organise alors une série de campagnes pour faire connaître les injustices auxquelles sont confrontées les femmes des Premières Nations qui ont perdu leur statut et leurs droits en vertu de cette loi. En 1967, Mary se joint au mouvement Indian Rights for Indian Women, un groupe de défense ayant pour mission de résister au colonialisme de genre au pays. Elle en devient une figure importante. Cette même année, les audiences de la Commission royale d'enquête sur la situation de la femme au Canada, Commission Byrd, 1967 à 1970, débutent et le mouvement Indian Rights for Indian Women, bien que non invité, s'y fait entendre grâce à Thérèse Casgrain, qui lui donne une place. Cette allocution permettra une première sensibilisation de l'opinion canadienne face aux inégalités auxquelles sont confrontées les femmes autochtones. La Commission recommandera d'ailleurs dans son rapport que la loi sur les Indiens soit modifiée afin que toute femme indienne se mariant avec un non-Indien puisse conserver son statut d'Indienne et le transmettre à ses enfants, des modifications qui ne seront toutefois pas adoptées par le gouvernement canadien de l'époque. Ironie du sort, 18 mois après la commission Byrd, en 1971, Mary Two Axe Early deviendra elle-même veuve. On lui refusera un retour dans la communauté qu'il a vue naître, Kanawake. Elle fondera alors, avec d'autres femmes des Premières Nations, l'organisme Femmes autochtones du Québec. En 1982, l'adoption de la loi constitutionnelle prévoit que les droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés ne doivent pas porter atteinte aux droits et libertés des peuples autochtones, notamment ceux reconnus par la Proclamation royale de 1763 ou ceux issus de traités. L'article 35 confirme et reconnaît les droits existants, ancestraux ou issus de traités, des peuples autochtones. Mary Two Axe et d'autres femmes autochtones y voient une occasion d'augmenter les pressions exercées sur le gouvernement fédéral pour qu'il mette fin à la discrimination à l'égard des femmes des Premières Nations. Sa détermination impressionne le premier ministre du Québec, René Lévesque, qui s'intéressait déjà depuis plusieurs années au sort des communautés autochtones du pays. En 1983, alors que les premiers ministres participent à une conférence constitutionnelle et qu'on refuse à la militante Mary Two Axe Early le droit de parole, M. Lévesque lui cède sa place à la table, forçant les autres dirigeants à écouter son plaidoyer en faveur de la justice pour les femmes des Premières Nations. « Sondez votre cœur et votre esprit, agissez comme vous le dicte votre conscience et donnez la liberté à mes sœurs », leur dit-elle alors. En 1985, Mary Two Axe Early, Jeannette Corbière-Lavelle, Sandra Lovelace, la sénatrice, Yvonne Bédard et toutes les autres obtiennent finalement gain de cause. Le projet de loi C-31 viendra modifier la loi sur les Indiens. Mary dira alors « Je retrouve aujourd'hui mes droits. Après toutes ces années, je peux à nouveau vivre sur ma réserve, y être propriétaire, mourir et être enterré avec mon peuple. » Leur ténacité profitera à 16 000 femmes des Premières Nations, ainsi qu'à 46 000 de leurs descendants, mais aussi à toutes les femmes autochtones qui viendront par la suite et qui ne perdront plus leur statut à la suite d'une union avec un non-autochtone. Militante des droits de la personne et défenseur des droits des femmes et des enfants, Mary Two Axe Early a marqué l'histoire comme pionnière et architecte du mouvement des femmes autochtones au Canada. C'était « Bienvenue à la station Mary Two Axe Early », un texte d'Isabelle Picard paru le 11 septembre 2025 dans la presse.
Combattre les plantes envahissantes, un lac à la fois. Un texte de Julie Roy, paru le 1er octobre 2025 dans La Presse. Août 2024, c'est la consternation au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le lac Otis est bel et bien envahi par le myriophylle à épi. Cette plante envahissante menace la santé et l'équilibre du milieu aquatique. Qui contacter? Phyto, F-Y-T-O, la seule entreprise de la province qui se consacre totalement à cette lutte et qui allie stratégie et travail terrain. Le problème a été connu en 2024, mais c'est seulement en 2025 que nous avons pu mettre en place une stratégie de contrôle. C'est la première fois que cette plante est détectée dans cette région, mais c'est un problème qui se répand. Affirme Vincent Gagné, président et directeur général de Phyto. À l'heure actuelle, près de 200 plans d'eau dans la province seraient touchés, un chiffre qui serait peut-être sous-estimé, selon le spécialiste. C'est une plante qui vient à la base de l'Eurasie. Elle a été importée et mise dans des aquariums comme décor, mais elle a été rejetée dans les lacs. L'enjeu est que la contamination est très facile. Elle se produit quand les plaisanciers se promènent d'un lac à l'autre sans laver à l'eau chaude leur embarcation, indique Vincent Gagné. Un projet de mémoire devenu entreprise. Phyto est venu au monde en 2021. C'est dans la foulée de sa maîtrise en aménagement du territoire et développement régional à l'Université Laval, que Vincent Gagné a décidé de se concentrer sur la gestion des espèces exotiques envahissantes. Le myriophylle à épi envahit tout l'écosystème et entre en compétition avec les plantes indigènes. Je me suis vite rendu compte qu'on devait faire un plan de lutte, mais qu'il fallait ensuite entrer dans l'eau pour faire le travail. Le jeune entrepreneur a donc suivi son cours de plongée et s'est adjoint une équipe de plongeurs pour contrôler l'envahisseur. De trois, l'équipe s'agrandit à 24 personnes en saison. Elle compte dans ses rangs des plongeurs professionnels, mais également des spécialistes en environnement et des biologistes. Nous avons de plus en plus de mandats grâce aux bouches à oreilles, nous dit Vincent Gagné. Le chiffre d'affaires a quadruplé en 4 ans. Notre croissance moyenne annuelle est de 60 %. En 2026, on prévoit encore une hausse. Je ne m'attendais pas du tout à ça, mais cela prouve que la problématique est réelle et qu'on doit agir. Un long processus. Éliminer à 100 % le myriophylle à épi est impossible. Mais les stratégies de contrôle sont efficaces, comme l'installation d'une toile, l'arrachage et l'aspiration sous-marine. Cependant, ces travaux exigent des autorisations et doivent être réalisés selon des normes précises. C'est la raison pour laquelle les demandes que reçoit Phyto cette année ne pourront déboucher sur des travaux qu'en 2027. On doit faire un inventaire, bâtir une stratégie avec la description du milieu. Ensuite, acheminer le tout au ministère avant que nous ayons les autorisations. En moyenne, le processus dure 1 an. Des riverains s'unissent. Pour plusieurs, l'attente en vaut la peine, car cette plante envahissante cause de nombreux soucis aux riverains qui se retrouvent face à un lac aux allures de marécage. D'ailleurs, ce sont eux qui s'unissent pour payer la facture. Certains mandats peuvent coûter jusqu'à 200 000 $ par an, mais le ministère de l'Environnement n'a pas les ressources pour payer ça. L'enjeu, c'est que plus le problème est présent depuis longtemps, plus il est onéreux à traiter. Ce sont donc des associations de riverains, des citoyens et des municipalités qui s'unissent pour payer les coûts, souligne le spécialiste. C'était « Combattre les plantes envahissantes, un lac à la fois », un texte de Julie Roy, paru le 1er octobre 2025 dans La Presse.